Chapitre 3. Samuel Vouma, depuis 2 heures qu'il était rentré, n'avait quasi point ouvert la bouche, lui qui était gai et causant de son naturel, et n'avait cessé de conter aux petits 100 histoires du pays de Gex. Sa mère, pendant le dîner, adressa au père un coup d'œil interrogateur, auquel il répondit par un haussement d'épaule qui signifiait « Je ne sais pas, moi ». Les deux petits, dont le menton dépassait à peine la table, fixaient sur leur grand frère de larges yeux bleus étonnés, et Marianne, qui avait 15 ans, et déjà des airs de petite femme, et le gros Louis aux idées lentes, et Georges, le troisième de la famille, dont tout le plaisir en ce monde était d'admirer son frère, tous se sentaient un peu tristes parce que Samuel ne disait rien. Tant qu'il avait été absent, on s'était passé de lui, on lui écrivait tous les 6 mois que chacun se portait bien et lui envoyait des amitiés, et qu'il eût à bien travailler pour satisfaire l'oncle et la tante. Mais il était revenu, et sa place s'était rouverte très grande, et le lendemain de son retour, sa mère lui disait déjà « Je ne sais comment nous faisions sans toi !» Non qu'il fût son favori, quoique le premier-né. L'étrange instinct de compensation que la nature a mis au cœur des mères faisait incliner sa tendresse la plus tendre et ses soins et son souci vers Louis, ce gros garçon lourd et indolent et d'une intelligence tardive qui jamais ne pourrait se tirer d'affaire. Pour ses autres enfants, la fermière avait la langue et la main prompte et une justice expéditive qui n'entrait pas dans les détails. Cette petite femme brune et maigre, à la taille plate, aux poignets noueux, singulièrement dure à la peine, elle se vantait de n'avoir jamais gardé le lit plus de 3 jours pour ses couches et d'avoir même sarclé des carottes le lendemain de la naissance de Samuel, mettant la main à tout dans la maison et au champ, économe comme une fourmi, était une aide précieuse pour son mari qui savait l'apprécier et ne la contredisait jamais. Parler beaucoup n'était pas l'affaire du père Vumard. Il allait son chemin silencieusement, ruminant ses idées et les exécutant quand le moment était venu, sans plus écouter les objections qu'on pouvait lui faire que le caquetage des poules dans la cour. C'est lui qui avait voulu qu'on envoyât Samuel en France, chez l'oncle, pour qu'il apprît à vivre. La mère aurait préféré qu'on y envoyât Louis, mais le père avait dit un non formel en y ajoutant un commentaire qui avait vivement blessé sa femme. Mou comme il est, il donnerait une jolie idée de la famille. L'oncle n'aurait qu'à s'imaginer que tous nos garçons sont taillés sur ce modèle et conseiller à la tante de ne pas leur laisser un sou. La tante était une Vouma, sœur du père du fermier. On disait que Samuel lui ressemblait beaucoup. Après le dîner, Samuel suivit son père sous le hangar où s'abritait le banc de charpentiers et toutes sortes d'enclumes et d'outils. Quelques minutes plus tard, le bruit des marteaux frappant le tranchant des faux résonnait dans la cour sonore. À la ferme, personne ne faisait la sieste qu'au temps des heures, quand la chaleur était accablante, personne, sauf le gros Louis, qui, chaque après-dîner, se glissait dans quelque recoin de la grange ou de la remise, ou sur la paille fraîche derrière les veaux, pour s'accorder l'heure paresseuse de demi-sommeil, indispensable à son lourd tempérament. Chaque jour aussi, la mère favorisait sa disparition en la couvrant de quelques prétextes, et si Marianne s'avisait de demander où donc était Louis, bien vite elle était remise à sa place. « Ta mère le pourrit, ce garçon-là, » dit le fermier d'un ton où se mêlaient l'irritation et la tristesse, en apercevant par la porte du hangar Louis qui se faufilait vers le pont de grange. « Ah, mon père à moi m'aurait réveillé avec une fourche !» s'il m'avait trouvé dormant sur le foin en pleine journée. Depuis que Samuel était de retour, son père, le voyant devenu un homme, s'ouvrait à lui plus qu'autrefois. « Jamais, poursuivit-il, Louis ne pourra prendre un domaine à son compte. Il sera toujours en retard, il n'aura pas fini de semer, que les autres feront la moisson. On prétend que ça dégourdit les jeunes gens d'aller en Amérique. Si je le croyais... » Il reprit son marteau, dont les coups rythmés alternaient avec ceux de Samuel, dans une cadence à contre-temps, suivie de la vibration stridente de l'acier. Pendant quelques minutes, les deux hommes restèrent silencieux. « Cela coûte-t-il cher d'aller en Amérique ?» demanda Samuel tout à coup. Son père le regarda, peiné que son idée eût été si vite prise au bon. « Est-ce qu'il n'y aurait que le prix qui te retiendrait d'y envoyer ton frère ?» fit-il avec reproche. Ce n'est pas à Louis que je pensais, dit Samuel, baissant la tête. À qui alors ? Il ne répondit pas tout de suite, mais un instant après, il se redressa et frappant un grand coup sur sa faux. À personne, fit-il, c'était une bêtise. Le soir, son père répéta à sa femme, mot pour mot, ce court dialogue. J'espère bien, s'écria-t-elle, ce fut son premier mouvement, que tu ne penses pas à envoyer notre Louis là-bas ? Je n'y pense pas pour l'heure, non, mais c'est de Samuel que je te parle. Sa femme mordit songeusement le bout de son aiguille. Elle était occupée à recommander les chaussettes et faisait courir sa grosse laine brune d'un point faible à l'autre à grandes enjambées. « Samuel pense à une fille, » fit-elle enfin. « Tu crois ?» dit son mari, à qui la même idée était venue. « Ce doit être une fille de là-bas. Il est parti d'ici trop jeune. Voyons un peu, de qui parlait-il dans ses lettres ? Je les ai toutes là dans le bureau, on pourrait les relire. » Mais pourquoi aller en Amérique ? Pour se ramasser quelque chose, l'argent s'y gagne plus vite qu'ici. Quant à moi, dit la fermière dont le cœur se gonfla, je n'y consentirai jamais. Sait-on bien si on reviendra quand on s'en va si loin ? Tranquillise-toi, fit son mari en s'approchant de la fenêtre pour voir si le ciel restait clair. C'est une idée qui lui passera, une bêtise, il le dit lui-même. Le lendemain, Samuel avait repris son humeur ordinaire. Ah, c'est qu'il s'était morigéné la nuit précédente, assis dans son lit, tandis que Georges dormait à côté de lui à poing fermé, roulant de temps à autre sa tête brune sur l'oreiller de cotonnade à carreaux, comme s'il sentait sur son visage la bande de lune qui voyageait silencieusement en travers du lit. On n'entendait que des respirations tranquilles dans cette chambre, et c'était chose bien inusitée pour ce jeune paysan, robuste et las d'une saine fatigue, que de veiller tandis que les autres dormaient. Mais les obsessions de la nuit ne lui laissaient aucun repos. C'étaient des phrases lancinantes qui passaient et repassaient dans son cerveau comme des flèches, et c'étaient des yeux toujours les mêmes, s'ouvrant dans l'ombre pour le brûler d'un regard courroucé et dédaigneux. Peu accoutumé à s'analyser, Samuel raisonnait cependant avec son esprit en fièvre et lui disait « Pourquoi te cabres-tu ainsi ? Pourquoi le souvenir de deux ou trois petites phrases est-il comme un aiguillon ?» C'était l'orgueil, s'avouait-il. Mais il n'était pas ainsi autrefois. D'où venaient ces accès de susceptibilité et ce trouble profond qu'il ne connaissait pas, ce désir de partir et de rester, cette facilité à s'irriter, puis ces attendrissements soudains qui pardonnaient tout ? Partir ? Quoi, partir pour une pique d'amour-propre ? Ne pourrait-on pas plutôt l'humilier à son tour, cette fille des maîtres qui devait bien avoir quelques points sensibles ? Non, il serait plus raisonnable de l'éviter. Ne la voyant plus, Samuel oublierait bien vite les mortifications qu'elle lui avait infligées. Dans quelques semaines, il rirait de s'être mis pour si peu la tête à l'envers. Oui, c'était bien cela, il fallait la fuir. Ah, il est facile de fuir qui ne vous cherche pas. Zoé s'apercevrait-elle seulement que quelqu'un restait à l'écart ? Le sentiment d'une distance très grande lui serra le cœur tout à coup, et aussitôt il se révolta contre cette souffrance nouvelle. « Je les vaux bien, comme si la question était là. Ils ne te sont rien et tu ne leur es rien. Va ton chemin, soigne ta ferme, et pardonne, c'est le plus court. Efface ces impressions, n'y pense plus, la pensée les ravive. » Samuel s'agitait si fort que Georges finit par se réveiller. « Qu'as-tu ? Es-tu malade ? » demanda-t-il en se soulevant sur son coude. « Non, je n'ai rien. »« Couche-toi alors, c'est la lune qui t'empêche de dormir. Moi non plus, je n'ai presque pas fermé l'œil, » murmura-t-il d'une voix indistincte. Puis il chercha une autre place sur l'oreiller et se rendormit. Cette interruption, cette voix réelle et connue dans la confusion de voix subtiles que l'esprit entend la nuit, chassèrent le cauchemar. Samuel se coucha. Il mit ses deux poings sur ses yeux pour les obliger à se fermer et, peu à peu, il glissa dans le sommeil. Ce matin, il voyait clair, il était gai. La joie de l'activité physique balaya comme un fatras tout ce tissu noir, ourdi par les pensées, durant les heures où les bras n'avaient rien à faire. Ce fut en chantant que Samuel accomplit sa tâche quotidienne. Le père en était tout réjoui, la mère, moins rassurée, se disait « L'ennui d'amour, c'est très changeant !» Vers 10 heures, comme Samuel tirait du fond de la grange un char à échelle pour s'assurer que les roues, les essieux, la limonière étaient en bon état et que rien ne coterait quand il faudrait aller au pré, Flore parut sur la porte. Le char faisait grand roulement sur le plancher inégal et elle dut appeler le jeune homme à pleine voix. « Hé, Samuel !»«
Mademoiselle Flore ?»«
Approche donc. Est-ce que je peux te parler comme ça, à 1 kilomètre de distance ?»«
Que diriez-vous d'une petite promenade en voiture » s'écria-t-il en faisant rouler le char jusqu'à l'entrée de la grange.
« Montez, je vous traînerai aller et retour. »«
Grand fou, quel âge crois-tu donc que j'ai ?»«
40 ans, pas un jour de moins, » fit-il en riant. Elle le menaça du doigt, puis tout à coup, retroussant sa jupe et montrant un large soulier plat, elle grimpa sur l'essieu et enjamba très proprement les échelles.
« En avant » cria-t-elle.
Samuel courut se mettre dans la limonière, à laquelle il donna une forte secousse. Le char s'ébranla et partit grand train, faisant trembler la grange. Quand ils arrivèrent à l'autre bout, Flore en avait assez de la promenade.
« Merci du retour, » fit-elle toute secouée de rire et d'émotion. « Je me demande si mes pauvres os tiennent encore ensemble. D'ailleurs, le plancher va en pente vers la porte. Si le char te gagnait, tu serais écrasé, mon beau garçon. »
« Il faut être prêt à risquer quelque chose pour les dames, » répondit-il galamment.
« Oh, le beau parleur, on voit que tu reviens de France. » C'est justement de la part de nos dames que je viens, de la part de M. Clovis par-dessus le marché. Notre jeune monde voudrait aller se promener aux 7 échelles et faire la dînette en route dans le bois là-haut. On te prie d'y aller avec eux pour montrer le chemin.
« Je n'ai pas le temps, merci, » dit-il d'une voix toute changée.
« Par exemple, j'ai vu ton père, sois tranquille, il dit que rien ne t'empêche. »
« Je n'ai pas le temps, » répéta Samuel, fronçant le sourcil.
« Hé, dit Flore en courroux, si tu as regret de ta journée, on te l'a... »
Elle n'acheva pas, car il la regarda d'un air qui lui fit rentrer les mots dans la bouche.
« Je vois ce que c'est, » pensa-t-elle. « Lui et Zoé, ils auront eu quelques chamailles. J'étais comme cela à leur âge, toujours à couteau tiré avec nos garçons. Comme Zoé est la fille des maîtres, c'est elle qui doit faire des avances. »
« Bien, dit-elle, je vais donner la réponse. Zoé viendra, puisqu'il faut qu'on te prie. »«
Ne la laissez pas venir, » s'écria-t-il vivement. « Je vous dis que je ne veux pas, et c'est dit. »«
Ah, mais non, qu'elle ne viendra pas. Pour se faire rebuffer par toi, mal appris !» cria Flore, descendant du char à la hâte et s'éloignant tout essoufflée d'indignation. Sans tourner la tête, Samuel s'en alla lentement du côté opposé, jusqu'à l'ouverture carrée qui servait de fenêtre à la grange, et il s'y accouda. Il était fort troublé, ne sachant s'il avait eu raison pour le fond et tout à fait certain d'avoir eu tort dans la forme. Il attendit quelques instants. C'était le pas léger de Zoé qu'il redoutait d'entendre, mais personne ne vint. Alors, il souhaita qu'elle parût pour lui expliquer les choses, pour lui répéter, mais avec courtoisie, avec des regrets, qu'il n'avait vraiment pas le temps d'aller à la promenade quand on était à 8 jours des fenaisons. Et si elle insistait, si elle disait qu'il était grand dommage de perdre cette belle journée, que lui seul savait le vrai chemin des échelles, l'endroit est dangereux quand on ne le connaît pas, eh bien, alors... Peut-être qu'il céderait pour lui montrer qu'elle eût mieux fait d'apporter sa requête que de l'envoyer par Flore. Mais personne ne vint. Il resta là, immobile et pensif, et prêtant l'oreille pendant fort longtemps. Il regardait droit devant lui, dans le coin de près d'un verre éclatant qu'on fauchait chaque jour pour une vache restée à l'étable. Il pensait vaguement à la besogne qui lui incombait pour le reste de la journée, à une faux qu'on avait ébréchée la veille. Et ses pensées, toujours plus confuses, se mirent à flotter dans une sorte de brouillard. Il essaya, mais faiblement et comme en rêve, de le dissiper. Il sentait quelque chose se débattre dans cette bruine. Tout à coup, ses yeux devinrent fixes et ses mains rigides, une sueur perla sur ses tempes.
Dans le grand silence de son esprit, qui cessait enfin de raisonner, il entendit son cœur crier la vérité. Il se cramponna au rebord de la fenêtre comme éperdu. Le vin nouveau de sa jeunesse lui montait à la tête, il ne se reconnaissait pas, il essayait de parler et il balbutiait. Il eut peur d'être vu dans cet état de violente émotion. Des yeux, il chercha autour de lui un endroit où se cacher. À droite et à gauche, les tas de foin étaient fort diminués depuis tant de mois qu'on y prenait. Un seul s'élevait encore jusqu'à l'enfourchure des poutres en potence qui soutenaient le toit. Une échelle se dressait justement contre sa pente. Samuel l'escalada, il marcha en trébuchant dans la couche molle qui cédait sous son poids, puis il s'y laissa tomber et cacha son visage sur ses bras repliés. Longtemps, il resta dans cette attitude. De longs frémissements le parcouraient de la tête aux pieds, et puis son cœur se dilatait comme s'il allait faire éclater la poitrine trop étroite, mais cette angoisse encore était de la joie. C'était de la joie, ces grands coups de cloche qui sonnaient dans ses tempes, de la joie, ces sanglots sans larmes qui lui serraient la gorge, et cette brûlure étrange tout au fond de son être, et cette sensation inconnue d'avoir une âme nouvelle. Tout était changé, tout. L'âme nouvelle était meilleure que l'ancienne, plus ardente et plus attendrie, et toute frémissante encore du mystérieux travail qu'il avait fait naître. Et tout l'être se concentrait pour la sentir monter des profondeurs obscures comme une houle inexprimable. Sentir était assez. Penser, craindre, s'interroger et se dire « c'est une folie », tout cela viendrait plus tard. Demain, oui, demain. Des larmes rares et brûlantes jaillissaient maintenant entre les doigts de Samuel dans ce ravissement d'amour qui était en même temps une indicible souffrance et un effroi, car il se sentait arraché à la terre ferme, emporté par l'irrésistible fleuve, vers cet abîme où l'on fait le sacrifice entier de soi. Mais il ne voulait pas penser, il se répétait tout bas avec extase « Zoé, mignonne !» Et il voulait croire que l'aimer ainsi lui donnait un droit et que quelque chose d'elle était à lui. Son nom, tout au moins, ce cher petit nom qui lui ressemblait, personne ne pouvait l'empêcher de se le redire. « Zoé, mignonne !» Un son qui s'éteint sur les lèvres, une vaine image qui flotte devant les yeux, et c'était là toute sa part, et il faudrait en vivre. Pauvre part que celle de l'amour ignorée. Mais n'est-ce rien d'avoir eu son heure divine, et qui, maintenant, pourrait la lui ôter? D'avoir senti en soi l'éternel miracle se faire, et pour s'être donné, se trouver plus riche au centuple. C'est dans cette heure-là que s'ouvre la fleur merveilleuse, la fleur de la vie, qui, fanée, embaume encore le long cours des années. C'est dans cette heure-là qu'un jeune paysan au cœur simple devient l'égal du plus grand roi de la terre, du plus raffiné des intelligents, et qu'il boit avec eux à la source de joie qui est commune à tous, comme la vie et la mort.